Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Une visite forte en symbole et en espoir. Le secrétaire du Parti communiste vietnamien a été reçu ce mardi par le pape au Vatican. La fructueuse collaboration existante doit être renforcée pour résoudre les problèmes en suspens. L'Église catholique vietnamienne compte quelques 8 millions de fidèles, mais le régime continue de contrôler l'ordination des évêques et de limiter le nombre de prêtres. De nouvelles personnalités pour peut-être une nouvelle image. Depuis ce mardi, le centre de télévision du Vatican a un nouveau directeur, un spécialiste du cinéma. À la salle de presse du Saint-Siège, nomination aussi d'un second vice-directeur. Nous sommes, vous le savez, en pleine semaine pour l'unité des chrétiens. Une dizaine de commissions de travail œuvrent au sein du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens au rapprochement avec les protestants, les orthodoxes, mais aussi les églises orientales. Le père Gabriel Quick en est en charge. Il est responsable du dialogue œcuménique avec les églises orientales. Et puis eux-mêmes éprouvés par des années de terrorisme, quelle perception ont les Algériens aujourd'hui de ce groupe d'hommes armés à l'origine de la prise d'otage d'In Amenas et dont tous les médias se font aujourd'hui l'écho? Un père blanc qui vit depuis 43 ans en Algérie, le frère Yaneft nous en parlera dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en langue française de Radio Vatican. La délégation est entrée par la place Saint-Pierre et l'Arche des Cloches, un privilège réservé aux chefs d'État normalement et de gouvernement. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Thu Trong, accompagné d'une délégation de 10 membres du PCV, dont le vice-premier ministre, ont été reçus ce mardi matin par Benoît XVI. Une audience privée rarement accordée à des personnalités qui ne soient pas à la tête d'un État. À la suite de cette rencontre, un communiqué de la salle de presse a été publié. On en parle tout de suite avec Olivier Tosseri.
La voie est tracée, mais le chemin est encore long. Le communiqué publié à l'issue de l'audience le rappelle. La fructueuse collaboration existante doit être renforcée pour résoudre les problèmes en suspens qui demeurent. Les rapports bilatéraux se développent en effet. En novembre dernier, dans le cadre d'une session d'Interpol, une délégation interministérielle vietnamienne avait tenu une séance de travail à Rome avec le secrétaire de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Une rencontre à haut niveau qui, espère le Vatican, pourra aboutir prochainement à la nomination d'un nonce au Vietnam en remplacement de l'actuel envoyé spécial non résident. Car sur place, la situation des chrétiens reste difficile, d'autant plus qu'en pointe de la contestation du régime, l'on retrouve la jeunesse chrétienne. Blogueurs ou défenseurs des droits de l'homme, les activistes catholiques dénoncent les expropriations, la corruption, les injustices. Il est donc parfois difficile de faire la part entre répression politique et persécution religieuse. D'autant plus que des symboles plaident en faveur d'une tolérance plus grande du régime. En décembre dernier, pour la première fois, la Fédération des conférences épiscopales d'Asie avait pu tenir son assemblée plénière au Vietnam. Pour suivre les échanges à haut niveau tout en améliorant l'exercice de la liberté religieuse des fidèles, voilà l'axiome de la diplomatie vaticane au Vietnam.
Olivier Tosseri le disait il y a un instant, les catholiques, blogueurs ou étudiants sont à la pointe de la contestation contre le régime. En août dernier, 13 militants ont été arrêtés au Vietnam avant d'être condamnés à la mi-janvier à des peines allant de 3 à 13 ans de prison, à l'exception d'un jeune homme qui a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Âgés de 24 à 55 ans, ils sont accusés d'appartenir au Viet Thanh, le parti pour la réforme du Vietnam, une organisation basée à l'étranger appelant à une réforme politique démocratique au Vietnam, considéré comme terroriste par les autorités. Selon le Viet Thanh à Paris, les accusés n'appartenaient pas pourtant au mouvement.
Effetto cinema.
Créé en 1983 afin de contribuer, comme Radio Vatican d'ailleurs, à l'annonce universelle de l'Évangile, le centre de télévision du Vatican change aujourd'hui de directeur. Le pape a nommé Monseigneur Dario Eduardo Vigano de l'archidiocèse de Milan, directeur et secrétaire du conseil d'administration du Chitivu. Âgé de 50 ans, il enseigne dans des universités romaines, dirige une revue spécialisée dans le cinéma et se trouve entre autres à la tête de l'Ente dello Spettacolo, une fondation cinématographique italienne. Il succède à la tête du Chitivo au père Lombardi qui était arrivé là en 2001 et qui reste cependant directeur de la salle de presse du Saint-Siège et directeur de Radio Vatican. Mais quel est exactement le rôle et le fonctionnement du Chitivo? Les explications de Thomas Chabol.
Situé en plein cœur de l'État du Vatican, on repère vite le CTV à son antenne et son camion satellite. Une équipe de caméramans et de journalistes fournit chaque jour un support image illustrant les activités du pape et du Saint-Siège. Entre les audiences, les Angélus et les nombreuses célébrations auxquelles participe le pape à Rome, et lors de ses voyages, le CTV suit chaque année quelques 130 événements, fournissant via satellite des émissions en direct pour les télévisions catholiques émettant de par le monde ou d'autres médias, si ceux-ci en font la demande. Depuis 1998, chaque semaine, une émission de 25 minutes intitulée « Octave à Dies » fait le bilan de l'actualité vaticane, avec à la clé un éditorial faisant référence à son directeur jusqu'à ce mardi, le père Lombardi. Cette émission est diffusée sur les chaînes catholiques italiennes, mais disponible aussi en anglais sur Internet. Enfin, outre son rôle d'archive visuelle, le CTV dispose de 10 000 cassettes, soit 4 000 heures de vidéos sur Jean-Paul II. Le centre télévisé du Vatican a produit un grand nombre de documentaires sur le pontificat de Jean-Paul II, mais aussi sur la basilique Saint-Pierre ou encore l'état du Vatican.
Gestion quotidienne de Radio Vatican, conférence de presse régulière sur l'actualité vaticane et puis réponse 24 heures sur 24 aux journalistes venant du monde entier. Pour appuyer le père Federico Lombardi, le pape a nommé un second vice-directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Il s'agit d'un laïc italien, Angelo Scelzo. Il était jusqu'alors sous-secrétaire du conseil pontifical pour les communications sociales. Il sera chargé en particulier des accréditations pour la presse, journalistes, photographes et journalistes reporters d'images. Que nous demande le Seigneur? Dans la justice et la bonté, marcher avec lui. C'est autour de cette phrase guide tirée du livre de Michée que les chrétiens de toutes les confessions se rassemblent en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se tient jusqu'au 25 janvier prochain. Lors de l'Angélus dimanche dernier, le pape avait invité les fidèles à un engagement concret pour cette unité tant désirée, affirmant que les divisions étaient l'une des plus graves fautes qui obscurcissent le visage de l'Église. D'engagement concret. Il en est bien question au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Une dizaine de commissions de travail œuvrent ainsi au rapprochement avec les protestants, les orthodoxes, les églises orientales, par le biais de rencontres ponctuelles, de collaborations diverses. Radio Vatican est parti à la rencontre de trois de ces commissions. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui le père Gabriel Quick, responsable du dialogue écuménique avec les églises orientales au sein de ce dicastère. Il est interrogé par Manuela Fidji.
Je vois quand même que les fidèles, ils aspirent qu'on devienne un peu plus proches les uns les autres. Si on part du Concile Vatican II, on a fait des progrès. La rencontre inoubliable entre le patriarche Athénagoras et le pape Paul VI à Jérusalem, c'est quelque chose d'inoubliable. Les accords qu'on a pu signer, par exemple, entre l'Église catholique et les différentes églises orthodoxes orientales sur la doctrine du Christ. Donc on a enlevé l'adjectif hérétique en ce qui concerne la doctrine sur le Christ. On s'est réalisé qu'on a utilisé une terminologie différente, mais on proclame la même foi. Et ça, c'est un pas en avant. Si on fait de grands efforts de prier ensemble, ça c'est un pas en avant. Si je vois que les réunions se font dans une belle atmosphère, c'est un pas en avant. Chaque an, la première semaine de décembre, je vais avec le secrétaire du conseil pontifical, je vais en Inde, à Kottayam, à Kerala. Ce sont les chrétiens de Saint Thomas. Et donc, toutes les réunions que j'ai pu vivre là ont été passées dans une atmosphère très fraternelle et très cordiale. Et ça, c'est un bon signe. Cela m'encourage. Si je vois que nous faisons des efforts d'écouter en respect, sachant que nous sommes tous des frères à la base de notre baptême dans le Christ. Mais il faut croire que l'unité des chrétiens ne dépend pas seulement de nos efforts humains. Parce que c'est aussi un don, c'est un don de l'Esprit Saint.
Vous avez parlé des points communs, mais quels sont les points de divergence, doctrinaux ou autres, culturels par exemple?
Si nous parlons de l'unité, ce n'est pas une uniformité, mais une unité dans la diversité. Donc ça c'est complémentaire. Il y a donc une diversité de cultures et même aussi de certaines opinions. Mais si je dois parler de la grande divergence entre l'Église catholique et l'ensemble, la famille des églises orthodoxes orientales, je pense que c'est seulement le ministère pétrinien, donc le rôle du pape. Et pour cela, on a besoin d'un peu de temps et de la patience, parce que c'est un sujet très sensible, mais pas à pas, je crois qu'on peut continuer à toucher ce sujet en respect. Et si on a la volonté de toucher ce sujet, c'est déjà un pas en avance, à mon avis.
Est-ce qu'il y a des problèmes historiques, des épisodes malheureux qui viennent encore, qui sont encore vivaces et qui viennent peut-être alourdir un peu le dialogue?
Oui, je pense des deux côtés, parce qu'il y a les blessures, comme dans la vie personnelle de chaque être humain, il y a les blessures du passé. Et là, je pense qu'une spiritualité d'une vraie hospitalité peut guérir les blessures du passé. Je dois dire que j'ai toujours touché par cet esprit d'hospitalité quand nous sommes accueillis par les orientaux. Ce sont des maîtres d'hospitalité et nous avons à apprendre beaucoup de eux. Ce style, c'est un mode de vivre. Cela peut nous aider beaucoup à comprendre ce que cela veut dire être accueilli par une autre église et comment nous pourrions le faire.
Et ce vendredi, le pape clôturera la semaine de prière pour l'unité des chrétiens lors de Vêpres, célébrée comme chaque année en la basilique Saint-Paul hors les murs. 44 hectares passés au crible, une maison d'édition italienne, Yaka Book, vient de publier en partenariat avec la librairie éditrice Vatican ainsi que les musées du Vatican, un guide général sur le plus petit état du monde, 450 pages qui existent en français pour faire connaître à tous, touristes, chercheurs, un territoire qui conserve jalousement l'une des plus grandes concentrations d'œuvres d'art au monde. L'ouvrage se flatte ainsi de faire découvrir les ensembles les moins connus et les plus difficilement accessibles, comme le palais apostolique et les jardins jusqu'au dernier quartier moderne du Vatican. Des lieux qui, attention, ne restent pas tous ouverts au public. Les commentaires sont rédigés par des responsables du patrimoine au Vatican et cela apporte un gage de crédibilité et de sérieux à ce livre, expliquait récemment le directeur des musées du Vatican dans l'Osservatore Romano, le quotidien du Saint-Siège. Après les années de braise, les Algériens ont bien compris qu'il fallait séparer religion et État. Alors que l'actualité internationale consacre une large place ces jours derniers à la prise d'otages d'In Amenas en Algérie, nous avons essayé de comprendre le rapport que les Algériens entretiennent aujourd'hui avec le terrorisme religieux. Car on le sait, le terrorisme, la population algérienne l'a bien connu. Dans les années 90, le pays a été marqué par une décennie noire pendant laquelle le gouvernement s'opposait à de nombreux groupes islamistes provoquant des dizaines de milliers de morts. Comment cette population algérienne éprouvée donc par le terrorisme perçoit-elle aujourd'hui l'action de ces ravisseurs armés en guerre contre les étrangers? Selon le père Blanc Yaneuf, la population algérienne a pris ses distances avec le terrorisme religieux qui avait cours dans justement ces années de braise. Le père Heuft vit en Algérie depuis 43 ans maintenant.
Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où les gens ont bien compris que il faudrait séparer la religion et l'État. Bien que les gens sont profondément religieux, ils sont très prudents. Donc, ils ne veulent plus se lancer dans les terrorismes ni faire confiance à des terroristes. Et je pense, aujourd'hui, nous ne trouvons plus personne pour terroriser la population, sauf les groupes qui sont poussés dans des endroits vraiment très isolés, et qu'ils essaient quand même de manipuler différentes personnes à l'intérieur du pouvoir ou à l'intérieur de l'État algérien. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui nous pouvons retourner dans un État islamiste comme avant.
Ou qu'il y ait un terrorisme religieux comme avant.
Voilà, on ne peut plus, les gens ne sont pas prêts à s'engager. D'autre part, il faut dire aussi que l'Algérie a engagé des forces partout pour protéger les intérêts de l'État, mais aussi protéger les populations. Et je crois que c'est très important. Et puis, il faut dire aussi, depuis 10 ans, l'Algérie est lancée dans un processus de démocratisation, de modernisation, qui laisse peu de place à ces groupuscules qui veulent s'emparer de l'État et imposer aux gens un État islamique.
Est-ce que vous, cette attaque dans le sud du pays, vous a surpris? Est-ce que les gens autour de vous étaient surpris?
J'avoue que j'avais dit autour de moi, cela risque de nous arriver. Et de fait, c'est arrivé. Moi, je ne suis pas étonné. Vu la manière joviale et très hospitalière que le président de la France a été accueilli ici, que les avions puissent traverser au-dessus de l'Algérie, que les terroristes sont poussés vers le nord, il me semblait que cela risque d'arriver. Par représailles envers les étrangers.
Mais sur le territoire algérien?
Oui, et sur le territoire, je m'attendais. Parce que bon, il y a quand même des gens qui restent très sympathisants de ces actions. Il reste quand même des groupuscules qui sont sympathisants à eux et qui restent toujours aussi dans la nébuleuse par rapport à l'Occident et l'Orient.
Vous pensez que c'est pour cette raison que les terroristes qui venaient du Nord Mali ont agi en Algérie parce qu'il y avait des contacts sur place qui pouvaient les aider?
Je pense, oui. Oui, il y a eu certainement des contacts pour être aussi bien au courant de ce qu'il allait se passer, c'est sûr. Pour connaître le site, il faut quand même avoir des complices.
On en parle beaucoup dans la presse.
Le journal n'en parle que de ça. Hein. Ce qui s'est passé, est-ce qu'on n'est pas intervenu trop vite? Comment ça se fait que les gens connaissaient? Il y a quand même énormément de morts, etc. Donc, si, on en parle. Tout le monde en parle. Enfin, la presse en parle. Les gens en public n'en parlent pas. Ils ont très peur. J'ai essayé aujourd'hui de parler à plusieurs personnes, tout proches de moi, mais aussi autour de moi, de ce qui s'est passé à In Amenas. Et personne répond, vous voyez, et ils veulent pas s'y lancer. Ils trouvent qu'on peut pas en discuter, ils ont peur d'en discuter aussi. Ils ont peur d'avoir de représailles, ça c'est vrai, mais ils sont au fond d'eux-mêmes pas d'accord. Tout en gardant une certaine méfiance envers l'Occident, évidemment. Hein. Et aussi, il faut dire aussi, ce sont tous des croyants en Dieu, n'est-ce pas, croyant en l'islam, qui ont aussi une certaine solidarité avec les musulmans. Donc il est très difficile de condamner des frères musulmans qui font de mauvaises choses. Mais d'autre côté, ils ont honte que des gens de leur propre religion ont pu amener une chose pareille.
La France et l'Allemagne fêtent leurs noces d'or. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande ont célébré leur réconciliation dans un Berlin enneigé ce mardi, il y a 50 ans, le 22 janvier 1963. La signature du traité de l'Élysée par le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer avait scellé la volonté d'amitié des deux ennemis héréditaires. Les deux pays troquaient donc leur rôle d'ennemi pour celui de moteur de la construction européenne. Selon l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, ce traité a servi de catalyseur aux initiatives franco-allemandes qui ont été à l'origine de chaque grande avancée de la construction européenne. Et puis comme Bruno Joubert, l'ambassadeur d'Allemagne près le Saint-Siège, fait lui état dans le quotidien du Saint-Siège de relations exemplaires et d'une collaboration pouvant servir de modèle aux autres pays. Reinhard Schweiper souligne aussi que l'entente franco-allemande et l'Union européenne qui en est née sont profondément influencées par le patrimoine des idéaux chrétiens. Les deux diplomates réaffirment enfin dans l'Osservatore Romano l'engagement de leurs pays respectifs en faveur de la liberté religieuse dans le monde. Enfin, avant de nous quitter, un petit tour aux États-Unis. Il y a 40 ans, jour pour jour, la Cour suprême du pays légalisait l'avortement. Le porte-parole de la Conférence des évêques américains en charge de la défense de la vie a appelé les catholiques américains à participer à 9 jours de prière, de pénitence et de pèlerinage. « Notre nation, a dit le cardinal O'Malley, a besoin de nos prières et de notre sacrifice personnel. » Le mal de l'avortement inflige une peine inimaginable, a poursuivi l'archevêque de Boston. Mais Jésus nous a offert la guérison et le renouveau. Et puis toujours aux États-Unis, pour l'anecdote, le président américain réélu, Barack Obama, a commencé sa journée d'investiture par une messe dans l'église St. John's, l'église des présidents proches de la Maison Blanche. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.